Voilà, je voudrais partager quelque chose avec vous de simple, mais d'important. Quelque chose que vraiment Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Et je sais pertinemment que, au travers de ce qu'on va aborder, au travers de ce qu'on va voir, je sais pertinemment que je vais mettre le doigt sur certaines choses. Je le sais, j'en suis convaincu. Et mon désir, c'est que si ce matin, on sent le Seigneur mettre le doigt dans un domaine ou dans un autre, mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je voudrais vous parler d'un vieux réflexe humain. Un réflexe humain qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui trouve son origine très, 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 très loin. Qui trouve son origine chez nos premiers parents, Adam et Ève. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Et je voudrais qu'on parle de ce réflexe-là. À un moment donné, ils ont eu un certain réflexe, et on va le voir ensemble. Ce réflexe-là, il est encore là aujourd'hui. Et peut-être c'est notre réflexe, c'est peut-être ton réflexe. Et peut-être que le Seigneur veut quelque part le formuler au travers de sa parole pour que le réalisant, on puisse se dire « Ok Seigneur, stop, j'arrête et je viens à toi ». Alors regardez, Genèse chapitre 3. Livre de la Genèse, chapitre 3. On est dans le jardin d'Éden. Et là, il dit ceci, verset 6. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et l'en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Vous avez ici dans ce texte ce que j'appelle le plus vieux réflexe humain qui soit. Un réflexe, on va le voir, qui est toujours vivace aujourd'hui. C'est celui qu'ont eu nos premiers parents, Adam et Ève, dans une situation bien précise, au moment où ils ont entendu l'appel de Dieu qui leur disait « Où es-tu ?» Et ma prière, c'est que si ce matin, on sent dans notre cœur le Saint-Esprit qui met le doigt, on sent l'appel de Dieu dans notre vie, d'une façon ou d'une autre, qui vient là et qui quelque part essaie de nous interpeller, on n'est pas ce même réflexe. Alors de quoi je vais parler ce matin, vous avez remarqué que dans ces 4-5 versets qu'on a lus, deux fois, il est dit que Adam et Ève se sont cachés. Vous l'avez au verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et puis vous l'avez au verset 10. L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voyez. Et ça, et on va le voir ensemble, on se rend compte que c'est un réflexe humain que l'on retrouve tout au long de l'histoire et que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, juste un autre exemple, vous n'allez pas très loin, vous allez dans le livre de l'Exode au chapitre 2, vous avez l'histoire de Moïse, rappelez-vous, qui va visiter ses frères, qui est témoin de leurs travaux pénibles. Et puis il voit un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui met une castagne. Hein ? Il le démonte. Il le tue. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le cacher dans le sable. Vous voyez, toujours ce réflexe de cacher ou de se cacher. Vous voyez ? Et je crois qu'aujourd'hui encore, il y a bien des vies spirituelles d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui aime le Seigneur, ça je n'en doute pas une seconde. On aime le Seigneur de tout notre cœur. Mais il y a tellement de vies chrétiennes aujourd'hui qui n'avancent pas, qui ne grandissent pas, qui végètent, qui stagnent. Pourquoi ? Parce que dans un domaine ou dans un autre, on cache ou on se cache. Vous voyez ? Et je voudrais que ça puisse nous interpeller. Et peut-être que ce matin, le Seigneur voudrait nous adresser le même appel qu'il a adressé à Adam et Ève il y a bien des siècles en arrière. Au verset 9, cet appel retentit. Où es-tu ? Et peut-être ce matin, le Seigneur veut te dire, mais où es-tu ? Ou je vais apporter une petite nuance. Où en es-tu ? Où en es-tu ? Et ma prière, c'est que face à cet appel, Ben, on n'est pas le même réflexe que de se cacher, de se parer derrière certaines choses pour quelque part, en pensant que ça va arranger la situation ou que quelque part, là, on sera tranquille. Je voudrais tellement qu'on puisse laisser le Seigneur nous atteindre. Parce que le but de ce matin, c'est que le Seigneur il puisse nous atteindre. Parce que si le Seigneur ne nous atteint pas, on va ressortir comme on est venu. On va rester dans nos problèmes, on va rester dans nos difficultés, on va rester dans nos souffrances, on va rester dans nos ornières. Vous voyez, il y a un verset qui dit dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit ceci, « Vous devriez être des maîtres et vous n'en êtes encore au collé. » Autrement dit, vous n'avez pas grandi comme vous auriez dû. Et une des raisons, pas la raison, mais une des raisons qui fait que parfois on ne grandit pas, on n'avance pas comme on devrait, c'est que dans certains domaines, on cache ou on se cache. On fait comme Adam et Ève. Alors, on va essayer d'être concret et de prendre quelques exemples. Il n'y a rien de mieux que des exemples dans la Bible pour essayer de comprendre. Et je me suis arrêté, j'ai pris 3-4 exemples là, rapidement de gens qui, justement, ne se sont pas cachés. Ils auraient pu se cacher, ils avaient toutes les raisons valables pour se cacher, ils avaient tous les arguments valables pour le faire et ils ne l'ont pas fait. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils ont été bénis de Dieu. Et au travers de ces exemples, c'est là où je suis conscient que forcément, je ne suis pas prophète, hein, mais forcément, je vais mettre le doigt. Et peut-être le Seigneur va mettre le doigt dans quelque chose ce matin. Mais pas pour nous faire mal. Mais pour nous dire, mais je veux t'atteindre. Je veux pouvoir te toucher. Mais tant que ce réflexe est là, de cacher ou de se cacher, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, premier exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est un exemple dont je me sers souvent, mais je vais encore le faire ce matin. C'est Joseph dans l'Ancien Testament. Rappelez que Joseph, il s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. La condition d'un esclave à cette époque-là, c'était dur, quoi. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec les gens qui sont en prison aujourd'hui. Aujourd'hui, la prison, c'est le Club Med, hein, à côté de cette époque-là. Il est esclave. Ça veut dire que quelque part, il n'a pas son mot à dire. Il fait ce qu'on lui dit. Il fait ce qu'on lui demande. Et il suffit d'un petit truc de travers, il peut y laisser la vie. Il suffit que le maître soit de mauvaise humeur, soit d'humeur changeante ou d'humeur massacrante. Au moindre écart, il peut y laisser la vie. Et il est dans ce contexte-là, qu'il n'a pas cherché, qu'il n'a pas voulu. Et puis vous rappelez que dans son histoire, vous lirez ça, Genèse 39, il y a Madame Potiphar qui rentre en jeu. Et Madame Potiphar va porter les yeux sur lui et va lui dire « couche avec moi ». Et vous rappelez que ce petit manège, il a duré pendant des jours et des jours. Vous lirez ça, Genèse 39, verset 10. « Quoi qu'elle parle à son cœur tous les jours, tous les jours. » C'était du harcèlement. On parle aujourd'hui de harcèlement moral et d'autres harcèlements, mais ce n'est pas nouveau. Hein. Elle l'a harcelé, elle le harcelait tous les jours, tous les jours. « Couche avec moi !» Et quand je réfléchissais à cet exemple-là, je me disais, mais il avait toutes les bonnes raisons pour se cacher derrière des arguments pour le faire. Il aurait pu se cacher derrière tout un tas d'arguments en se disant déjà, je suis esclave, j'ai pas mon mot à dire. Et il aurait pu se cacher derrière le fait que quelque part, c'est pas lui qui a cherché, c'est pas lui qui a voulu, c'est pas lui qui est à la base de cette relation. Il n'a pas cherché la relation. Il aurait pu se cacher derrière cet argument-là. Il aurait pu se cacher aussi derrière le fait que s'il était là, à cette place-là, les grands responsables, c'était ses frères. Vous voyez ? Parce que ça aussi, c'est toujours un réflexe qui est humain, c'est de chercher des coupables, c'est de chercher des responsables. Et là, il aurait pu se cacher derrière cet argument, ben, si je couche avec cette femme, d'abord, c'est ma patronne, et puis peut-être que ça va m'apporter quelques avantages. Mais quelque part, si je le fais, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes frères. Et il aurait pu se cacher derrière ces arguments-là pour faire quelque chose qui aurait déplu à Dieu. Mais il ne s'est pas caché derrière ça. Et la Bible nous dit qu'il va refuser. Vous savez, je crois que s'il avait accepté, cette histoire, elle aurait mal fini aussi. Parce que autant cette femme, elle voulait avoir une relation avec lui, autant ça en serait lassé très vite. Vous voyez, c'est comme l'histoire d'Amon avec Tamar, vous vous rappelez ? Il l'a voulu, il l'a eu, une fois qu'il l'a eu, après il n'en voulait plus. Et je suis convaincu que ça aurait été exactement la même histoire. elle se serait servie de Joseph comme d'un Kleenex. Une fois qu'elle avait eu ce qu'elle voulait, elle l'aurait jeté. Donc ça n'aurait pas fait avancer les choses, voyez. Mais ce que je veux relever, c'est que Joseph, il aurait pu se cacher derrière des arguments qui étaient valables, qui étaient vrais. C'est pas moi qui cherche, c'est pas moi qui ai voulu. Et puis mes frères, c'est eux qui m'ont envoyé là. Moi, j'ai pas demandé à venir là. Et il se serait caché derrière ces arguments-là. Mais un, c'est pas ce que Dieu aurait voulu. Et deux, il serait sorti du plan de Dieu. Et concernant cet exemple, j'aimerais peut-être dire ceci ce matin. Peut-être tu te caches derrière tout un tas d'arguments, tout un tas de prétextes, tout un tas d'excuses qui sont vraies, valables, vérifiables peut-être même, pour expliquer peut-être des attitudes, pour expliquer des comportements, pour expliquer des façons de faire ou de fonctionner qui sont les tiennes. Et tu te caches derrière ça en disant « Oui, mais moi, c'est, je fais ça, je réagis ou j'agis comme ça, je fonctionne de telle ou de telle manière parce que il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Le problème, c'est que on se cache derrière ces arguments-là, mais peut-être au fond de toi, tu sais que quelque part devant Dieu, c'est pas le bon chemin. Mais quelque part, ça nous arrange. Ça nous arrange. Joseph, parce qu'il a refusé de se cacher derrière des arguments valables, il a été béni de Dieu. Il a été béni de Dieu. Je me dis que c'est vrai, ça lui a coûté cher après. Hein, parce que Madame Potiphar l'a calomnié, il s'est retrouvé dans une situation pire. Mais n'empêche, ce que je vois, c'est que il a été un instrument de Dieu extraordinaire. Et ce matin, déjà au travers de cet exemple, j'aimerais dire quelque part, ce qui est important, c'est qu'on fasse ce qui plaît à Dieu. Et peut-être le Seigneur voudrait dire déjà à quelqu'un, mais tu te caches derrière des arguments, derrière des excuses, derrière des prétextes, pour justifier ton état, pour justifier ta façon de faire, pour justifier ta manière de fonctionner. Mais tu es malheureux. Tu penses que ça te protège, mais ça ne te protège pas. Ça empêche Dieu de te bénir. Joseph, il a pas voulu, lui, parce qu'il voulait plaire à Dieu. Et ce matin, je voudrais tellement t'encourager, peut-être, à dire au Seigneur, voilà, il y a des choses, je sais au fond de moi que je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer à fonctionner de cette façon-là. Je sais que quelque part, tant que je suis là, comme ça, dans cette façon d'agir, de réagir, de parler, de penser, j'irai pas loin, mais je me cache, je me suis peut-être caché jusqu'à aujourd'hui derrière des arguments qui sont peut-être vrais, mais qui n'empêchent de me rendre malheureux. Je pense à deux femmes, Shifra et Pua, ça vous dit quelque chose? Je vois. Shifra et Pua, c'était deux sages femmes à l'époque de Moïse. Vous vous rappelez? Le pharaon avait donné un ordre terrible. Vu que les Israélites se répandaient de plus en plus, se multipliaient, il a ordonné de faire mourir tous les enfants mâles. Terrible, hein? Et comme quoi, des choses abominables, il y en a toujours eu dans notre monde. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Hein. Et regardez, là, regardez ce qu'il est dit. Exode 1er. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alléluia. Vous voyez, ce que je veux noter ici, c'est que devant l'ordre inique de Pharaon, voyez, quelque part, elles ne se sont pas cachées derrière ça. Elles auraient pu se dire, après tout, nous on n'y est pour rien. Nous on ne veut pas, ça ne vient pas de nous. Elles auraient pu se dire, quelque part, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Nous on n'est rien. Nous on n'est que des exécutants, le pharaon, celui qui est tout en haut, là-haut, il nous demande de faire ça. Alors je suis obligé de le faire, on est obligé de le faire, ça ne nous plaît pas, mais je le fais quand même. Ils auraient pu se cacher derrière ça. Mais la Bible nous dit que parce qu'elles craignirent Dieu, elles ne l'ont pas fait, elles ne se sont pas cachées derrière ça. Derrière ces arguments qui auraient été valables. Résultat des comptes, un petit peu plus loin, il est dit, Exode 1, verset 21, regardez ce qu'il est dit. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Vous n'avez pas envie que Dieu bénisse votre maison? Vous n'avez pas envie que Dieu bénisse votre foyer, vos enfants, votre famille, que Dieu bénisse l'église? Vous n'avez pas envie de ça? Mais moi, j'ai envie de ça. Et là, on a une clé, là. On a une clé importante, c'est que quelque part, quand j'ai la crainte de Dieu, c'est-à-dire pas la peur, mais ce désir de l'honorer, ce désir de vraiment lui plaire, quand j'ai ce désir-là, il y a des choses derrière lesquelles je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher. Vous voyez? Combien de fois on m'a dit, écoutez pasteur, ou écoute Cyril, je ne peux pas faire autrement. Ouais. Je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de le faire, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Combien de fois on m'a dit ça? Je suis obligé de magouiller, je suis obligé de tricher, je suis obligé de ceci, je suis obligé de cela, je ne peux pas faire autrement, je suis pris, donc il faut que je le fasse. S'il y en a deux qui auraient pu se cacher derrière cet argument-là, c'est bien Shifra et Pua. Elles auraient bien pu faire. Elles avaient tout le loisir de se cacher derrière cet argument-là. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait. Voyez. Je ne peux pas faire autrement. C'est peut-être ton raisonnement ce matin dans un domaine. Tu dis, moi, je ne peux pas faire autrement. Oui, c'est comme ça. Comment tu veux que je fasse? Tu étais à ma place, etc. Alors, je vais poser une question. Avec beaucoup de respect. Et avec délicatesse. Mais je crois qu'il faut la poser. Est-ce que tu peux pas faire autrement ou est-ce que tu veux pas faire autrement? Parce que c'est pas pareil. Hein. Des fois, c'est pas qu'on peut pas faire autrement, c'est qu'on veut pas. Parce que quelque part, parfois, ça nous arrange. On le dit pas comme ça, mais ça nous évite de prendre nos positions. Ça nous évite de... Vous voyez, ouais. Puis finalement, on se dit, bon, on se cache derrière cet argument, je ne peux pas faire autrement, et puis voilà, ça nous protège, et on pense que... Ces deux femmes ne se sont pas cachées derrière cet argument-là. Et Dieu les a bénies. Dieu les a bénies. Ce matin, je connais certains, d'autres je ne vous connais pas, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais si peut-être tu dis, mais moi je ne peux pas faire autrement, je sais que ce n'est pas bien, je sais que devant Dieu ce n'est pas droit, je sais que quelque part cette attitude ben, elle n'est pas correcte, mais je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Ben, Dieu peut-être t'interpelle, te dit, pense à ces deux femmes. Regarde leur exemple, elles ne se sont pas cachées et Dieu les a bénies. L'Éternel bénit ses sages-femmes, il a béni leur maison, alléluia. Et c'est ce qu'on veut, que Dieu bénisse nos maisons encore aujourd'hui. Et puis j'ai pensé à David. J'ai pensé au roi David. J'en ai brièvement parlé vendredi soir. Peut-être permettez-moi que j'y revienne. S'il y en a un qui aurait pu se cacher derrière tout un tas d'arguments pour régler son compte à Saül, c'était bien lui. Vous rappelez l'histoire de David et de Saül, entre les deux, là, c'était chien et chat. Vous rappelez, quand vous lisez l'histoire, c'est compliqué, quoi. Et on voit Saül qui est jaloux de David, Saül qui lui fait des crasses pas possibles, mémorables, aux yeux de tout le monde. Je pense à cet épisode où, quelque part, il a convenu, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, de donner Merab, sa fille, à David. Et puis au moment de la lui donner, apparemment, je vais dire avec des mots d'aujourd'hui, au moment où le mariage devait être fait, scellé, hop, il la prend et la donne à quelqu'un d'autre. Mais vous imaginez un peu l'affront que c'est? C'est un affront qu'il lui a fait. Et ça, devant tout le monde. Ah, bah tiens, mais elle ne devait pas être avec David, celle-là? Ah, bah non, elle était avec un autre. Et ça, parce que le père, vous voyez, une entourloupe, vous voyez. Et David, il subit ça. Il subit ça. Mais vous imaginez, et ça, c'est qu'un épisode parmi tant d'autres. Il lui a fait des crasses, il lui a fait des trucs mémorables. S'il y en avait un qui aurait pu, et par deux fois il a l'occasion de régler son compte à Saül, il a l'occasion de le tuer. D'ailleurs on lui dit même, regarde, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Comme quoi, vous voyez, Dieu on le met un peu à toutes les sources comme on veut. Hein. L'Éternel te dit, voici le jour où je livre ton ennemi. Ouais, l'Éternel n'avait rien dit du tout. Hein. Des fois, vous savez, Dieu m'a dit. Ben là c'est un peu le cas. Et David va dire, non. Moi je rentre pas dans ce trip-là, vous voyez. Franchement, vous pensez que si David avait tué Saül, avait réglé son compte, vous pensez que Dieu l'aurait approuvé? Pensez que ses arguments auraient tenu en disant, oui, mais Seigneur, t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu toutes les crasses qu'il m'a fait? Alors Seigneur, c'est normal qu'à un moment donné, moi j'en pouvais plus, hein. Alors comme j'en pouvais plus, à un moment donné, c'était plus fort que moi. Eh ben, En plus, il est arrivé, moi j'étais au fond de la caverne, il s'est mis là, il est venu là. Ah ben, il n'a qu'à pas venir là. Hein. Voyez, on peut se cacher facilement derrière tout un tas de trucs. Hein. On peut faire comme Adam et Ève, hein, se cache. Mais devant Dieu, ça n'aurait pas tenu. S'il avait fait ça, ça aurait montré que finalement, David n'était pas meilleur que Saül. Voyez. Et là, j'aimerais peut-être dire ceci, concernant cet exemple-là. Peut-être comme David, on t'a humilié, on t'a rabaissé. Alors, je vais employer une autre expression. Peut-être on t'a pris pour un imbécile. Quelque part, on s'est moqué de toi, on t'a utilisé. Vous voyez ? Bref, on t'a fait du mal. Si je résume, on t'a fait du mal, comme Saül a fait du mal à David. Je sais que quand on vit ce genre de choses-là, des injustices, c'est difficile. Et croyez-moi, je suis bien placé pour en parler. Quand on vit ce genre de choses, d'injustices, on vous prend pour un imbécile, pour un paillasson, on vous rabaisse, on vous humilie. C'est dur, hein, quand ça vous arrive. C'est peut-être ça peut être arrivé. Alors je sais que ce que je vais dire, peut-être ça va vous titiller, ça va te titiller, ça va être dur à entendre. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quelque part, on ne peut pas se cacher derrière l'attitude des autres pour dire, eh bien aujourd'hui, parce qu'il y a eu ça, et c'est vrai, eh bien moi aujourd'hui c'est comme ça et c'est pas autrement. On ne peut pas se cacher derrière ça devant Dieu. On ne peut pas. David, il aurait pu se cacher derrière ça. Mais maintenant c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, et puis terminé. Vous connaissez ces versets ? L'apôtre Paul qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Enfin, ce n'est pas l'apôtre Paul qui le dit, c'est Dieu qui le dit par la bouche de l'apôtre Paul, Romains 12. « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». À moi, c'est Dieu qui dit « à moi », pas à nous. Pas à nous. Et c'est là où c'est pas évident. Et la suite du passage, Romains 12, 21, dit « Ne te laisse pas vaincre ou gagner par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Ne te cache pas derrière des arguments qui sont certainement vrais d'ailleurs, voyez, qu'on n'a pas exagéré. Et surtout le verset que j'aimerais mettre en évidence, et moi c'est un verset qui me parle parce que je me dis, Seigneur, c'est pas évident. Hein. Regardez l'exemple de Jésus, 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Concernant Jésus, il dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est Jésus !» Oui, mais... Oui, c'est Jésus, mais on est appelé à marcher à son exemple. Ben oui, vous voyez, on est appelé à marcher à son exemple. Vous voyez. Vous savez, souvent, c'est là que Dieu nous attend. C'est souvent là que Dieu nous attend. Dans ce genre de situation où le coup a été rude, on a du mal à l'encaisser. Ça nous a fait mal, ça nous a blessé, ça nous a humilié. On s'est senti rabaissé, on s'est senti peut-être... Enfin, vous voyez, tout ce genre de sentiment-là. Ce que j'appelle, moi, le couteau dans le dos. Peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être tu as l'impression qu'on t'a mis un couteau dans le dos. Bienvenue au club. Et franchement, dans ce que je dis là, sur ce point-là, je sais que c'est pas évident. Mais souvent, c'est là que Dieu nous attend. Comment je vais réagir ? Est-ce que je vais me cacher derrière des arguments ? Est-ce que je vais me cacher derrière tout un tas de choses qui sont vraies d'ailleurs ? Ou est-ce que quelque part je vais dire, Seigneur, écoute, tu as vu, tu sais. Ça ne veut pas dire que quelque part, on va être là en disant, allez, vas-y, allez-y, tapez-moi dessus, je suis content, je suis heureux. Vas-y, mettez-moi des couteaux, vas-y, allez, faites-vous plaisir. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. On n'est pas maso. Hein. Mais je crois que souvent c'est là que Dieu nous donne rendez-vous. C'est souvent là que Dieu veut nous rejoindre. On chante des chants comme on a chanté tout à l'heure, celui-là et d'autres sur la croix. Moi, chaque fois que je chante un chant sur la croix, ou que j'en entends un, moi je suis touché. Ce que le frère Richardson a dit il y a 15 jours sur le sang de Jésus, moi ça m'a touché, ça m'a remué. Pourtant, on le sait, tout ça, le sang de Jésus, Jésus qui a été crucifié, qui a été maltraité. On a lu ce verset d'un Pierre, il a été injurié, là, on l'a traité comme un bandit. Enfin, on a fait passer Jésus pour moins que rien, et encore, la Bible ne rentre pas dans tous les détails. On l'a humilié devant tout le monde. Vous vous rendez compte, hein? On l'a déshabillé. Alors, la Bible ne rentre pas dans tous les détails, mais enfin, on l'a mis nu devant tout le monde. Hein? Vous imaginez la honte? Mais Jésus a subi tout ça, toutes ces injustices, tous ces couteaux dans le dos. Vous rendez compte, tout ça est venu de la main de quelqu'un qui avait marché pendant 3 ans avec lui, Judas. Mais vous imaginez un peu la douleur? Et ça, c'est des situations qu'on rencontre parfois aujourd'hui. Fois des gens, on était là, on a voulu, on a fait, on les a aidés, tout ça, et puis derrière, là, une parole, un truc, mais ça vous met par terre, ça vous met minable, vous le vivez mal, vous pleurez, hein, si vous avez envie d'aller dans la forêt, de hurler pour faire sortir la douleur. Mais souvent, c'est là que Dieu nous attend. Et nous dit, mais c'est ce que... Loin de ce que j'ai vécu moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu moi, ce que tu ressens là. Mais je ne peux pas me cacher derrière cet argument. Par contre, je peux dire, Seigneur, écoute, je ne veux pas me cacher derrière ça en disant, ben voilà, moi maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et le premier qui bouge, pan ! Le premier qui bouge, il a droit au compte maintenant. Maintenant, pouf, j'envoie bouler tout le monde. Maintenant, le premier qui... pan ! Non. Vous savez comment Dieu a béni David, hein ? J'aurais pu vous parler de Pilate. Pilate qui s'est caché derrière les autres. Qui a pris de l'eau, qui a fait un petit peu de théâtre. Là, il a pris de l'eau, il s'est lavé les mains devant tout le monde. Cela vous regarde. Je suis innocent du sang de ce juste. Et il se cache derrière les autres pour fuir sa responsabilité. Tu ne peux pas te cacher derrière les autres. On ne peut pas se cacher derrière les autres. On ne peut pas se cacher derrière les autres. Devant Dieu, on est responsable. Oui, peut-être les autres, ils ont fait des choses. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas me cacher derrière les autres pour fuir mes responsabilités à moi. Pour fuir ce que j'ai à faire. Peut-être quelqu'un, là, ce matin, tu es là, tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais tu ne le fais pas parce que les autres, il y a eu ceci, il y a eu cela. Oui, mais le salut, c'est toi, c'est entre toi et Dieu. Les autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et peut-être le Seigneur, ce matin, veut te dire, mais ne te cache pas derrière les autres. Celui que j'appelle, c'est toi. Viens à moi, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais les autres, c'est moi qui m'en occuperai, c'est pas toi. Il y a peut-être eu un tas de choses et peut-être tu es focalisé sur les autres. Ben, Seigneur, je ne veux pas regarder les autres, je ne veux pas être comme Pilate. Vous savez comment Pilate, il a fini, hein ? L'histoire raconte que Pilate, il a fini par aller se suicider. Hein ? Ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est l'histoire qui le raconte. Hein ? Il a mal fini, Pilate. Il a mal fini. Il a pensé qu'en faisant comme ça, il allait s'attirer les bonnes grâces de la foule, des religieux. Hein, l'histoire raconte qu'il a été rappelé du côté de Rome là-bas, et puis là-bas, ça s'est très mal passé. Enfin, bref, et il a fini, mais il a fini en se suicidant, Pilate. Vous voyez ? Il s'est caché derrière les autres. Il aurait mieux fait de se positionner pour le Seigneur. Vous voyez ? Puis je termine par un dernier exemple. Je pourrais en prendre des tas. Une parole de l'apôtre Paul. Parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Laisse-moi ce verset, remets-moi-le. Une autre traduction dit, et je la préfère, dit, là, attendez que je ne me trompe pas, là où est l'Esprit du Seigneur, ça m'échappe. Hein. Là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Il me semble que c'est un peu plus parlant, voyez. Là où l'Esprit, il est Seigneur. Est-ce que l'Esprit de Dieu est Seigneur dans ma vie, voyez. Et le verset 18 dit, regardez, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Voyez. La gloire du Seigneur, on la lit dans la parole, on contemple sa gloire au travers de la parole, on est là, on se rend compte que Dieu est grand. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je voudrais qu'on retienne, nous sommes transformés. Sommes transformés. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a un autre domaine où je peux pas me cacher derrière cet argument qui consiste à dire je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, eh ben je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. Eh ben on peut pas se cacher derrière cet argument-là, parce que devant Dieu ça tient pas. Parce que la vie avec Dieu, c'est une vie où Dieu nous transforme, où Dieu nous change, où Dieu nous modèle. Voyez, une vie où quelque part, du début, où Dieu me prend, il me prend brut, mais au fur et à mesure que j'avance, il me change, il modèle mon caractère. Bref, il y a des choses qui changent. Alors, ça prend plus de temps chez certains, un peu moins chez d'autres. On note un changement à tous les niveaux, mais il y a une transformation qui s'opère. C'est pas possible qu'après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus de marche avec Dieu, on ait toujours le même caractère lamentable. C'est pas possible. Il y a un truc qui marche pas. C'est que quelque part, on se cache. On se cache. Voyez ? Pierre, il avait du tempérament. Il n'y a qu'à lire les évangiles. Pierre, lui, une petite baston de temps en temps, ça lui faisait du bien. Ça, il aimait ça, lui. Voyez ? C'était son truc. Voyez ? À un moment donné, on est venu un peu chercher Jésus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort l'épée, qui coupe l'oreille de Malchus. Allez, boum. Au moins comme ça, c'est radical. Ça, c'était Pierre. Ouais. Ouais. Je prends Saul de Tarse, c'est pareil. Un homme violent. Il le dit lui-même. Hein. Moi qui étais avant un blasphémateur, un homme violent. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Vous imaginez, il ne valait même pas le croiser le soir, lui. Hein. Dans une petite rue sombre, il valait mieux l'éviter, quoi. Hein. Ou alors vous baissiez la tête, vous passiez et puis vous regardez pas quoi. Vous voyez ? Mais ça c'était Saul de Tarse. Et puis on est quand même surpris de ce que quelques années plus tard, ce même homme va écrire 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Il va écrire cette parole pour toi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma foi, ma constance, ma douceur. Oh ! Ma douceur ! Lui la brute de service. Hein ? Il a changé Paul. Hein. Il a changé, vous voyez ? Moi, je crois vraiment que quand je laisse le Saint-Esprit me changer, faire son œuvre, il me change. Et je ne peux pas, et je peux plus me cacher derrière l'argument de dire « ben, je suis comme ça, vous comprenez ? Moi, je suis entier. » Combien de fois on dit ça ? « Moi, je suis entier, je dis. Hein. » Ouais. « Moi, je dis ce que je pense. Ouais. » Mais des fois, il vaut mieux penser à ce qu'on dit. Hein. « Je dis ce que je pense. » Et on pense que, ça, que quelque part, ça nous justifie. Ben des fois, il vaut mieux penser un petit peu à ce qu'on dit, plutôt que de dire ce qu'on pense. Ça fera moins de dégâts, ça fera moins de mal. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Vous voyez ? Parce qu'après, qu'est-ce qui va nous rendre crédibles quand on va témoigner du Seigneur ? Qu'est-ce qui va nous rendre crédibles ? Vous allez dire, tu sais, hein, le Seigneur, il t'aime. Hein ? Il est bon, il veut te bénir. Ah ouais, d'accord. Et puis le lendemain, vous voyez la même personne, là, quelqu'un lui marche sur le pied, bim, boum, bam, oh, qu'est-ce que c'est ça, viens ici, toi. Bah, bon, regardez, il va dire, c'est ça, le chrétien. Et purée, bonjour. Hein. Finalement, il est comme moi. Hein. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que c'est beau quand vous voyez des gens, on dit, lui, je ne sais pas ce qu'il a, elle, je ne sais pas ce qu'il a, je ne la reconnais plus, je ne le reconnais plus. Il n'est plus le même. Avant, je le connais. Pouh, il était le premier. Il était tous les soirs chiffon. Il sortait. Il était là-bas. Il faisait ça. C'était pas le dernier. Et puis, mais alors aujourd'hui, oh. Après, vous pouvez aller parler du Seigneur. Vous êtes crédible. Hein. Parce que, sans quand même. Sinon, si vous dites un truc d'un côté et qu'il y a un décalage de l'autre, mais qu'est-ce que vous voulez que ça apporte ? Ça fait l'effet contraire. Les gens, ils fuient. Ils sentent bon. Hein. Ils sentent bon. Pour ça que moi, j'ai envie de dire Seigneur, change-moi. Change-moi. Parce qu'allez, il faut se l'avouer. On a tous un peu mauvais caractère. Non ? Bon, ce que. Bon, allez, moi j'ai mauvais caractère, allez. Pas vous. Mais on a tous un peu un côté, un domaine. Seigneur, change-moi. Je termine simplement. J'ai pensé à ce verset, c'est un passage qui, en ce moment, vraiment me fait réfléchir. C'est David dans le psaume 32, verset 3. Vous connaissez ce texte ? David qui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Autrement dit, je gémissais toute la journée. Il est en train de dire « Ça allait pas, quoi. C'était pas le top. Dans ma vie, franchement, ça allait pas. » Et il continue en disant « Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Ben oui. Dieu essayait de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui change. Alors, vous savez, des fois le Seigneur appuie, hein, mais c'est pas pour nous faire mal, c'est pas pour nous blesser, c'est au contraire pour qu'il se passe quelque chose. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et il y a une pause là, vous voyez, il y a écrit pause. Mais ces pauses là, c'est pas anodin. Hein. C'est réfléchi. Et puis continue en disant, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Permettez que je vous le traduise à la façon de Cyril. Vous me permettez? Je ne vais pas faire dire à la Bible n'importe quoi, rassurez-vous. David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Permettez que je dise ce matin, tant que je me cache, ou que je continue de me cacher, ou que je continue de cacher certaines choses, je ne peux pas aller bien. Tant que je me suis tu, tant que je cache, tant que je me suis derrière certains arguments qui sont peut-être vrais, et même à 90%, les arguments ils sont toujours vrais, souvent. Parce que je pars du principe, enfin, à moins que je sois peut-être encore un peu naïf, qu'un chrétien, c'est pas un menteur. Bon, je suis peut-être un peu naïf, mais bon. Mais tant que je me suis tu, tant que je me suis caché, il n'y a rien qui se passait, j'avançais pas, je vivais rien, je me traînais, il n'y a rien qui se passait en moi, je sentais rien, j'entends parler de bénédiction, bah oui, les autres ils sont bénis, mais moi non, et ceci et cela, et j'ai l'impression que quelque part, la pluie de Dieu, elle tombe devant, derrière, là, et puis moi je suis là, et j'ai l'impression que pour moi il n'y a jamais rien. C'est un peu ça qu'il exprime, vous voyez. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, j'étais sec, il n'y avait rien qui se passait. Et puis, il va se décider à changer. Et il ne va plus se taire. Et verset 5, tu peux me le remettre, je t'ai fait connaître mon péché. Ah, changement. Changement d'attitude. Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit, allez, arrête de te mentir, arrête de faire semblant, arrête de te cacher, arrête de te trouver des arguments, j'avouerai mes transgressions. Point barre. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et tu as effacé la peine de mon péché. Alors bien sûr, là, dans ce contexte-là, il y a un contexte. Hein. Attention, hein, il y a un contexte. Là, c'est David, par rapport à sa situation, avec Bathsheba. On est tous d'accord. Hein. Je ne suis certainement pas en train de dire que toutes les situations, c'est parce qu'il y a un péché. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais c'est le principe que je veux en retirer. C'est que il y a des moments où ben comme David, il faut prendre la décision de dire « Seigneur, je ne veux plus me cacher. » Adam et Ève ont eu ce vieux réflexe dès le départ. On voit où ça les a menés. Moïse, au départ, il a caché dans le sable. Et puis vous prenez tous les textes où il est question de cacher, vous allez voir. D'ailleurs, je pense à ce verset des Proverbes. Hein, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais tous les textes où il est question de cacher, de dissimuler, ou de se cacher derrière tout un tas de choses, mais ça a souvent mal fini. C'est pour ça que ce matin, je voudrais que les uns et les autres, là où on en est, dans le domaine qui est peut-être où il y a besoin de quelque chose qui se passe, on puisse dire, Seigneur, je ne veux plus me cacher, je veux arrêter de me cacher derrière des arguments, même vrais, mais Seigneur, parce que je me rends compte qu'en le faisant, je ne suis pas atteignable. Je ne suis pas atteignable. Vous savez, si je fais ça là, vous pouvez me viser, hein. Vous ne me toucherez pas. Hein. Si Jean-Luc veut m'envoyer quelque chose, il y a le mur devant. Hein. Si Daniel veut m'envoyer quelque chose, vous ne me toucherez pas. Hein. Alors c'est une image toute bête, hein, mais spirituellement parlant, c'est pareil. Des fois, on est un peu derrière le mur. Mais on dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Peut-être, ouais, Seigneur, vous jouez. Mais je voudrais tellement que ce matin on puisse dire, Seigneur, je veux que tu me touches, je veux être atteignable, Seigneur, je veux que tu bénisses ma vie. Et peut-être il y a eu des choses qu'on a mal vécues. Attention, je ne minimise pas hein, les blessures, je ne minimise pas ce que les, peut-être on nous a fait, je ne minimise pas ça. Parce que je sais combien ça fait mal. Je sais combien ça fait mal. Je ne minimise pas. Mais j'allais dire, ce que je veux dire, c'est que après, ben, Seigneur, moi je ne veux pas rentrer dans ce cercle-là. ce cercle infernal qui fera que je m'en sortirai pas. D'ailleurs, ben maintenant, je me cache. Moi, Seigneur, je veux que tu bénisses ma vie et je veux que tu m'aides. Et je voudrais que vraiment ce matin, dans la simplicité, tu viens, je voudrais qu'on puisse vraiment prendre quelques instants devant Dieu pour demander au Seigneur de nous aider. Je vais prier, mais je voudrais vraiment que, si peut-être au travers d'un de ces exemples, peut-être, je ne sais pas, moi, le Seigneur a mis le doigt, que devant Dieu, tu puisses dire, Seigneur, aide-moi. Peut-être tu dis, ouais, mais j'ai mal. Mais je comprends, je comprends. Je ne minimise pas la douleur, je ne minimise pas la souffrance, certainement pas. Mais je me dis, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est de la pluie du ciel. Ce que j'ai besoin, c'est que tu viennes me visiter. Ce que j'ai besoin, c'est d'être atteignable. Seigneur, en me cachant derrière tout ça, peut-être souvent parce que j'ai voulu me protéger, parce que peut-être j'en ai eu marre de souffrir. Mais quelque part, inconsciemment, je me suis extrait aussi de ce que tu voulais faire. Alors Seigneur, je ne veux plus faire comme mes parents Adam et Ève, mes vieux parents Adam et Ève. Je ne veux plus faire comme d'autres. Seigneur, je veux m'en remettre au juste juge. Et il y a une expression que j'aime beaucoup et que je me l'approprie à moi-même. Et je vais nous la donner ce matin encore une fois. Le dossier ou les dossiers, remets-les au Seigneur. Le dossier, remets-le à Dieu. Jésus s'en est remis à celui qui juge justement. Il a, voilà, le dossier, il est au Seigneur. Notre problème, c'est que souvent le dossier, on est là, on lui dit, tiens Seigneur, le dossier. Et de l'autre côté, il y a la main du Seigneur qui le prend. Et peut-être le Seigneur ce matin te dit, lâche le dossier, lâche-le. C'est bon de lâcher, de dire Seigneur, moi maintenant le dossier, écoutez, j'en ai marre de le porter, j'en ai marre de le trimballer, j'en ai marre de l'avoir dans la poche, de le relire tous les jours. Seigneur, maintenant prends-le, et je ne veux plus m'en occuper. Et là, tu deviens atteignable, à la grâce de Dieu. Et je voudrais tellement que ce matin, on puisse dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, viens me toucher. Peut-être ça, ce que je viens de dire ce matin, ça concerne, quelqu'un se dit, moi ça ne me concerne pas, tant mieux. Mais je suis convaincu que ça concerne plusieurs. Et je voudrais tellement qu'on puisse dire, Seigneur, viens me toucher, viens me transformer. Viens me transformer. Viens, Seigneur, bénir ma vie. Vois ma vie tourner vers toi. Vois mon cœur tourner vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'être visité par toi. Ce que l'homme ne peut pas faire, Seigneur, toi, tu peux le faire. Seigneur, tu vois mon cœur blessé, tourmenté. Seigneur, viens, 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 Seigneur, ce matin. Viens. Viens. Comme David, dire j'arrête. Tant que je me suis tu, il n'y a rien qui se passait. Tant que je me suis caché, il n'y a rien qui se passe. Mais maintenant, Seigneur, je viens devant toi. Et je veux la pluie du ciel qui tombe sur ma vie. Seigneur, ce matin, je réalise, Seigneur, que on n'est rien et que on a tous, plus ou moins, Seigneur, dans un domaine, dans un des casseroles, des souffrances, on trimballe tous des choses. Mais ça nous empêche souvent d'avancer, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Seigneur, ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu le fais ce matin, par le Saint-Esprit. N'as-tu pas dit que tu étais celui qui était capable de guérir les cœurs brisés, de panser les blessures du cœur, Seigneur, étends tes mains et manifeste-toi. Débarrasse-nous, aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de ce vieux réflexe. Et moi le premier, viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur, pour nous donner vraiment de vivre comme toi tu l'entends. Bénis mon frère, bénis ma sœur. À toi la gloire, Seigneur. Je voudrais qu'on puisse, comme une prière, chanter ce chant. Vraiment, on va finir par là, simplement. Peut-être avant de le chanter, simplement, dans la simplicité. Après, ça reste entre toi et Dieu. D'ailleurs, je ne demanderai pas. Mais si peut-être, au travers de ce qu'on a vu ce matin, il y a quelqu'un ou quelques-uns qui désirent quoi, simplement la prière, simplement, simplement. Peut-être te lever à ta place, juste là où tu es. Je ne vais pas te demander de venir devant, je ne vais pas... Voilà, on va faire ça dans la simplicité. Et en se levant, c'est comme si on dit, Seigneur, je veux être atteignable. Et avec ta grâce, je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus me cacher. Ou je ne veux plus cacher. Mais Seigneur, me voici. Alors si tu as besoin, tu te lèves, on va prier. Le Seigneur qui est là, qui voit, qui est témoin. Ce n'est pas pour moi, pas pour moi. Alléluia, Seigneur. Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai bien conscience que à travers de ces bien-aimés qui se lèvent, il y a des cœurs brisés, il y a des souffrances qui sont là. Il y a peut-être même derrière des larmes, il y a des cris, il y a des gémissements. Il y a peut-être même des drames. Seigneur, je te prie de les visiter, de les renouveler, de les fortifier. Seigneur, toi qui sais toutes choses, toi qui connais, Seigneur, étends tes mains sur eux. Console, visite, renouvelle, restaure, guéris, panse les plaies. Tu es le réparateur des brèches, Seigneur. Et je te demande ta grâce. Moi, je ne peux rien faire, Seigneur. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Et je te demande de les bénir. Au nom de Jésus, par ton bon esprit, que la pluie du ciel devienne leur partage, Seigneur. Que la pluie du ciel puisse tomber peut-être sur ces terres desséchées. Et que, Seigneur, il y ait quelque chose de bon qui sorte, qui pousse, qui germe. À toi la gloire, parce que tu fais ces choses encore aujourd'hui. Tu le dis dans ta parole, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, Seigneur, je m'attends à des choses nouvelles pour ces bien-aimés, Seigneur. Alléluia. Comme toi seul es capable de le faire. À toi la gloire, Jésus. Pour chanter ce chant, simplement, viens me transformer, comme une prière en terminant. Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois ma vie, elle est à toi. Vois mon cœur tourné vers toi. Dernière fois, viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Amen. Amen. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui se sont levés tout à l'heure, c'est un conseil tout bête, tout simple que vous savez. Matthieu 6,6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Je voudrais vraiment t'encourager à ce qu'il y ait une continuité à ce moment. Que ce ne soit pas simplement là, on se lève et puis voilà. Mais peut-être ce soir, dans le secret de ta chambre, là, tout seul devant Dieu. Te mettre devant Dieu ce soir, demain matin. Et vraiment dire, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait hier matin ou ce matin au culte, Seigneur. Je veux une continuité. Je ne veux pas que ce soit une émotion simplement là. Mais Seigneur, toi qui es là dans le secret, viens me visiter. Viens. Et Dieu qui est là, il fera ce qu'il a à faire. Comme il veut le faire, quand il voudra le faire, mais là on se place d'une manière où je deviens atteignable. Faites-le devant Dieu, là dans le lieu secret. Alléluia. Seigneur, je te remets nos vies, je te remets nos cœurs. Aide-nous à garder ces choses, Seigneur. On a tellement besoin de toi, et moi le premier, Seigneur. Alors merci encore ce matin, Seigneur. Garde-nous dans ta paix, que toute cette semaine qui va redémarrer, tu nous gardes en toi, Seigneur, et que tu nous aides à être tes témoins. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous